prions. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Nous te demandons, Seigneur, ce matin, l'aide du Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes et les apôtres du Christ. Nous te demandons son aide, Seigneur, parce que nous savons que nos intelligences, nos capacités ne peuvent pas nous permettre de discerner à travers ta parole, ta volonté. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles pour que nous puissions non seulement entendre, mais aussi recevoir et garder cette parole. Et aide-nous dans les heures et les jours à venir à la mettre en pratique. Et comme il a été dit, à la mettre en pratique avec amour, conduit toujours par le Saint-Esprit et pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons méditer ensemble pendant quelques temps sur la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 12, des versets 1 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 12, 1 à 13. Frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu. Vous le savez, vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne parlent pas. Vous ne pouviez pas leur résister. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide du Saint-Esprit, personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur ». Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit-Saint, et cela pour le bien de tous. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu, un autre reçoit de ce même Esprit le don d'une foi très solide, un autre reçoit de cet unique Esprit le don de guérir les malades. Un autre peut faire des actions extraordinaires, un autre peut parler au nom de Dieu, un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit-Saint et ce qui ne vient pas de lui. Un autre peut parler en des langues inconnues, un autre peut les traduire, mais tout cela, c'est le seul et même Esprit-Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. Utilisons une comparaison. Le corps forme un tout, et pourtant, il a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique Esprit. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. La première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens est un des écrits les plus beaux de la Bible, avec notamment le chapitre 13, cet hymne à l'amour. C'est étrange que l'apôtre Paul écrive de si belles choses pour une église qui a autant de problèmes. Cette église, elle a toutes les bénédictions, mais aussi toutes les malédictions. Déjà, l'apôtre Paul commence sa lettre en faisant des reproches. Pourquoi ? Parce que dans l'église de Corinthe, il y a certains qui disent « moi je suis pour Paul, moi je suis pour Pierre, moi je suis pour Apollos ». Déjà, c'est une église qui part mal, elle est divisée. Et puis, il y a un autre problème à Corinthe, c'est que la plupart des chrétiens ont un arrière-plan païen. Et ça cause des problèmes avec les dons du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que pour ces chrétiens, les seuls dons importants, c'est le don de prophétie et le don de parler en langue. Avec leur arrière-plan païen, ils ont eu l'habitude dans leur passé de fréquenter les temples des oracles. Et vous savez que les oracles dans l'Antiquité étaient censés être possédés par la divinité et puis ils disaient des choses en baragouinant quelque chose d'incompréhensible. Et seuls les prêtres, apparemment, pouvaient comprendre et puis ils traduisaient pour le peuple. Donc pour ces chrétiens, parler en langue comme, semble-t-il, le faisaient les civils, c'était le summum de la spiritualité. Et puis il y avait le don de prophétie qui ressemblait beaucoup à ce que faisaient les devins de l'Antiquité. On pouvait prédire l'avenir, on pouvait dire ce qui va arriver. Donc ces chrétiens, pour eux, le don de parler en langue et le don de prophétie, c'était le summum. Et donc dans ce chapitre 12, l'apôtre Paul essaye de rappeler quelques fondamentaux. Il n'y a pas que le don de parler en langue et le don de prophétie. Toute personne qui dit « Jésus-Christ est le Seigneur » a le Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce qu'il ne parle pas en langue qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et on le sait au chapitre 13, il va leur dire « Ok, c'est beau ces dons, mais il y a quelque chose de plus important, l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je peux parler toutes les langues, je peux prophétiser, je peux avoir toute la connaissance, mais je ne suis rien. » L'amour. Au tout début de ce chapitre 12, ce qui m'intéresse, c'est que pour parler des dons du Saint-Esprit, l'apôtre Paul commence par redire quelque chose de fondamental à ces Corinthiens divisés. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut dire « Jésus est le Seigneur ». Il semble dire aux Corinthiens, ok, certains profèrent Paul, d'autres Apollos, d'autres Pierre, certains ont des dons pour parler en langue, d'autres n'en ont pas, voilà. Mais il y a quelque chose qui réunit tout le monde. Jésus est le Seigneur. C'est à partir de cette racine, clin d'œil au titre du forum, ouais, quand même. C'est à partir de cette racine, ben oui, c'est du travail. À partir de cette racine commune qu'est Jésus-Christ, que les Corinthiens pourront vivre cette diversité de Paul, d'Apollos, de Pierre, de qui on veut. Paul dira même, pourvu que le fondement soit le même, chacun peut construire avec ce qu'il veut sur ce fondement. Ce fondement, c'est le Seigneur Jésus. Et on peut construire avec de l'or, avec de l'argent, de la paille, du bois. Mais le moment venu, Dieu va révéler la solidité de l'œuvre de chacun. Mais il y a quand même un fondement commun. Jésus est le Seigneur. Alors ça semble simple, ça semble évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. Parce que comment est-ce qu'on comprend cela ? Jésus est le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire ? Pour nous, au XXIe siècle, la notion de Seigneur, à part pour quelques Anglais, je sais qu'il y a un évêque anglican qui va arriver ou qui est là. On a encore des lords en Grande-Bretagne, mais dans la France républicaine, où on les a presque tous décapités, c'est pas évident cette notion de Seigneur. Alors, si on essaie de moderniser, ça veut dire quoi ? Jésus est le chef de l'État, Jésus est le président, Jésus peut-être Seigneur au sens il est puissant, genre Jésus est Superman, Jésus est fort, Jésus est le meilleur, Jésus est le boss. Pour Paul, qui est juif, Jésus est le Seigneur rappelle quelque chose d'incontournable. La foi du peuple hébreu, où c'est Dieu qui est le Seigneur. Pour Paul dire « Jésus est le Seigneur », c'est confesser que Jésus est Dieu. C'est confesser que ce Jésus de Nazareth, qui a marché sur les terres de Galilée, qui a été crucifié, et qui est ressuscité, c'est vraiment Dieu qui est venu parmi nous. Il le redira d'une autre manière, il va développer ce thème. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à saisir, mais il s'est dépouillé, prenant l'apparence d'un serviteur, devenant un homme. Il a obéi jusqu'à la mort et même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse, Jésus est le Seigneur. Vous voyez que dire Jésus est le Seigneur, selon en tout cas la compréhension de Paul, qui je crois était celle aussi des autres disciples, c'est tout cet historique. la naissance, l'enseignement, la mort sur la croix, la résurrection. C'est ça qui fonde sa seigneurie. Et à partir de ce fondement, de cette racine commune, les Corinthiens peuvent vivre ce qui, pour moi, est la pluralité la plus intéressante, c'est celle des dons du Saint-Esprit et des ministères que produisent ces dons. Ah, voilà une pluralité qui m'intéresse. La pluralité des dons du Saint-Esprit qui font que l'Église devient un corps où chacun, avec le don qu'il reçoit du Saint-Esprit, peut aider à l'édification commune. Et l'apôtre Paul dira, jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. Voilà une pluralité intéressante, fondamentale. Et là, je ne peux plus dire à mon frère, à ma sœur, assis à côté de moi, « Bah, écoute, ça fait 5 ans qu'on se connaît, je ne vois pas très bien à quoi tu sers. » On ne le dit pas, mais on le pense. Et c'est ce qui se passait chez les Corinthiens. Il y avait ceux qui prophétisaient du matin au soir, et puis il y avait ceux qui étaient là, voilà, pas le même pas longue, on ne sait pas ce qu'il fait là. Mais il y a des dons différents. Il y a telle personne qui va avoir une parole qui va relever l'autre. Il y a ceux qui prient dans leur coin. Il y a ceux qui enseignent le peuple. Il y a ceux qui font des miracles. Il y a ceux qui prophétisent. Il y a ceux qui parlent en langue. Mais chacun est membre du même corps. Cette pluralité-là, elle m'intéresse. Elle m'intéresse vraiment. Beaucoup plus que la pluralité théologique. Alors à partir de ce moment, puisqu'on est à l'ère de la communication avec des fake news, avec plein de trucs, voilà, je m'excuse auprès des familles, tout ça, tout ce que je vais dire là qui risque de blesser plein de gens, voilà, c'est fait. Ok, Jésus est le Seigneur. C'est en cela que la pluralité des dons du Saint-Esprit se fonde. Mais comment aujourd'hui comprenons-nous cela? Quand je dis nous, je parle de l'Église protestante unie de France. Sommes-nous d'accord lorsque nous disons Jésus est le Seigneur? Nous sommes d'accord d'un point de vue du vocabulaire et des termes que nous utilisons. Mais qu'est-ce que nous mettons derrière? Pour certains, Jésus est le Seigneur, cela veut dire que voilà, c'était un rabbin sympa qui a dit des choses percutantes et puis il a été victime d'une erreur judiciaire et il est mort. Pour d'autres, Jésus est le Seigneur, cela veut dire que c'était un homme à qui Dieu a fait une grâce particulière et qu'aujourd'hui, tout le monde peut vivre à peu près la même chose. Pour d'autres, Jésus est le Seigneur, cela veut dire qu'il est Dieu et que nous sommes appelés à lui obéir et à le servir. Et puis, on peut mettre derrière ce terme pas mal de choses. La question que je me pose lorsque j'observe notre Église, c'est qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur cette racine commune. Il y a pour certains l'incapacité de croire que ce Jésus est mort et vraiment ressuscité. Non pas ressuscité dans le sens où son souvenir vit dans le cœur de ses disciples et qu'on ne l'oubliera jamais, tout ça, mais ressuscité d'un point de vue historique, c'est-à-dire il s'est vraiment réveillé de la mort. Alors il n'y avait pas les médecins pour valider tout ça. C'est vrai. Mais il s'est vraiment réveillé. Alors on dit c'est la même chose. Ah non, je suis désolé. C'est pas la même chose. Il me semble tant qu'on n'est pas d'accord sur ce fondement commun, eh bien, on ne pourra pas vivre ce qui pour moi est la plus belle des pluralités, celle des dons du Saint-Esprit. Tant qu'on ne fait pas ce travail pour dire qui est Jésus-Christ pour nous, en quoi est-il notre Seigneur aujourd'hui, eh bien, désolé, ou plutôt pas désolé, mais le reste, ce n'est que de la vanité. Enfin oui, vraiment, je suis désolé parce que je vois vos têtes. Oui, je suis désolé de vous balancer de mauvaises nouvelles comme ça. Ce que l'apôtre Paul rappelle ici aux Corinthiens, c'est que à partir de ce fondement commun, l'Esprit Saint peut déployer en chacun de nous et dans l'Église une diversité incroyable, insoupçonnable. À partir de ce fondement commun, l'Esprit Saint peut utiliser le plus faible d'entre nous pour accomplir des choses magnifiques. À partir de ce fondement commun, l'Église peut s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Imaginons un peu, et j'en terminerai par là, imaginons un peu qu'on doive évangéliser. On arrive, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et la personne, ça veut dire quoi le Seigneur Jésus? Là, on est par terre. Parce qu'on va avoir 10 discours différents. Et ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible, ce n'est pas possible. Surtout avec nos contemporains. De quel Jésus nous parlons-nous? Ce fondement commun, ce n'est pas, comme on le pense, une église exclusive, entêtée, fermée ou je ne sais quoi. Ce n'est pas un enfermement. La preuve, lorsque vous lisez le livre des Actes et même les Épîtres, vous voyez que entre Paul, Pierre, Jacques, Jean, il y a des sensibilités différentes, il y a des approches différentes, il y a une vraie richesse. Jacques n'était toujours pas d'accord avec Paul. Parfois, c'est même limite. Mais ce qui les réunissait, c'est que Jacques pouvait dire « Paul est un serviteur du même Seigneur que moi. » Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec ces méthodes. Et parfois, je tique quand il dit « Oh, la loi de Moïse, écoutez. Hein? » Mais je sais qu'il sert le même Seigneur que moi. Et juste pour ça, je travaille avec lui. Aujourd'hui, pouvons-nous, dans l'Église protestante unie de France, regarder tel pasteur, tel paroissien et dire « Nous servons le même Seigneur ». Encore une fois, oublions le vocabulaire. Est-ce qu'au fond, nous servons le même Seigneur? Chers frères et sœurs, la pluralité n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen que le Seigneur nous donne pour toucher toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les catégories sociales. C'est un moyen. Mais ce moyen a besoin d'avoir une base solide. Une base unique. Sinon, ça ne sera plus de la pluralité, ça sera de la confusion. On peut choisir notre base. Ça peut être la tradition huguenote. Pourquoi pas ? Ça peut être nos synodes. Ça peut être notre culture française. Enfin, votre... Ouais, ça fait quand même déjà pas mal de temps que je vis en France. Notre culture française, pourquoi pas? L'apôtre Paul dit, c'est le Seigneur Jésus. Et vu le CV du gars, je crois qu'il a un peu raison. Alors moi, je vous propose, pour terminer, de prendre un temps de prière pour demander à Dieu de nous restituer par rapport à la Seigneurie de Jésus-Christ. Qu'on redéfinisse déjà pour chacun d'entre nous en tant que chrétien. Qu'est-ce que cela veut dire, Jésus est mon Seigneur? Et de prier pour notre Église, pour que la Seigneurie de Jésus-Christ, au sens où nous l'ont transmise Paul et les autres disciples, soit notre fondement commun. Nous prions. Père, cette parole, Jésus est le Seigneur, nous l'avons tellement dit et tellement répété que bien souvent nous ne savons plus ce qu'elle signifie. Pour nous en tant que chrétiens ou pour notre Église. Ou alors, si nous le savons, bien souvent nous ne le vivons pas, puisque nous le comprenons tellement de manières différentes. Et nous prenons le risque, Seigneur, d'être comme l'Église de Corinthe, c'est-à-dire avec des belles choses du Saint-Esprit, avec une belle œuvre de Dieu, mais tellement divisée, tellement séparée. Père, dès la Genèse, tu as montré que tu aimais cette diversité dans ta création. Tu aimais cette pluralité qui manifestait plusieurs facettes de toi. Dès la Pentecôte, Seigneur, tu as montré que tu voulais toucher tout le monde et que tu utilisais différents moyens. Ce matin, nous te prions de nous refonder en Jésus-Christ comme Seigneur, au sens où l'entend l'apôtre Paul et les disciples, comme le Maître, celui à qui nous devons notre vie, notre temps, nos biens, celui à qui nous devons obéissance. Et je te prie, Seigneur, pour que de cette racine commune puisse se déployer en nous et dans nos églises les dons du Saint-Esprit, qui ne sont pas le petit plus, le petit bonus de la foi chrétienne, mais qui sont les éléments fondamentaux pour que l'Église croisse et arrive à la stature parfaite du Christ. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous nous complaisons dans une pluralité qui est en fait de la confusion, où nous n'annonçons pas le même Jésus. Nous sèmons le trouble, Seigneur, dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Et nous leur faisons croire qu'il y a plusieurs Jésus, qu'il y a plusieurs dieux. Aide-nous, Seigneur, aussi à ne pas tomber dans une sorte de fermeture d'esprit qui exclut les autres. Et toi seul peux nous permettre de vivre cette unité dans une diversité. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.